8h23 à Paris, la revue de presse. Bruno Faure, bonjour.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
À la une des journaux français, les banlieues, 10 ans après.
Des banlieues où le malaise grandit, c'est la une du Figaro. Octobre 2005, la mort de 2 adolescents à Clichy-sous-Bois, près de Paris, enflammait les banlieues sensibles. Aujourd'hui, délinquance, pauvreté, chômage, échec scolaire restent endémiques, tandis que la radicalisation des cités inquiète, montée de l'islamisme et du communautarisme favorisé, selon le journal, par une immigration mal contrôlée. Voilà pour ce résumé peu réjouissant, 40 ans d'une politique impuissante, selon le Figaro, qui accuse gabegie et démagogie. Cette réalité, tout le monde la connaît, y compris François Hollande, qui multiplie les visites en banlieue. Et pourtant, le déni continue, affirme Yves Tréhard. Il ne suffit pas d'injecter des milliards d'euros pour acheter la paix sociale. Le Figaro prend pour exemple Marseille, où 3 jeunes ont été abattus ce week-end dans une nouvelle fusillade, apparemment lié au trafic de stupéfiants. Marseille n'est que l'exemple le plus flagrant, le plus sanglant de l'échec des plans banlieues. C'est l'analyse de Didier Rose dans les dernières nouvelles d'Alsace, des incantations dans le vent qui, aux yeux de Midi Libre, ont fabriqué une mini-république parallèle. Une politique du laisser-faire estime l'Union, une permissivité immodérée qui favorise le développement d'une sous-culture. Elle a fini, d'après Nicolas Faustier, par gangréner les quartiers jusqu'à les façonner. Pourtant, explique cet éditorial, ce ne sont pas les propositions originales qui manquent, de la socialiste Samia Ghali qui voulait faire intervenir l'armée, à l'écologiste Yannick Jadot qui voulait légaliser le commerce du cannabis. Nous aurions de quoi palabrer, on ose tout, nous dit l'Union, sauf aborder les vraies questions.
Les débats qui agitent les banlieues, détaillés dans Libération.
Libé au Karcher, titre de ce numéro un peu exceptionnel, entièrement rédigé par les membres du Bondi Blog. On les voit en photo de groupes jeunes de différentes origines, des jeunes hommes et des jeunes femmes. En tête des préoccupations de ces blogueurs qui connaissent très bien les quartiers populaires, l'éducation, faute d'information et aussi d'attention, trop d'élèves se retrouvent désemparés à la suite d'erreurs d'aiguillage. Question aussi sur la justice, le rôle du juge, les affaires impliquant les politiques, les prisons trop peuplées, le rôle des médias, bien sûr, une lettre ouverte pour la diversité, la ségrégation culturelle et cette question posée dans le Libé du Bondi Blog. La révolte de 2005 a-t-elle été une explosion de colère ? Pour rien.
Et nous serons avec ces blogueurs à Bondy demain sur RFI, journée spéciale dès 7h ce mardi. L'autre grand sujet développé dans la presse française, c'est le synode sur la famille au lendemain du rapport final remis au pape François.
Le pape, épais dossier dans la main gauche et grand sourire à la une de la Croix. L'église s'ouvre à toutes les familles. Une révolution douce, écrit le journal chrétien. Le synode ne ferme aucune porte. Le texte laisse potentiellement ouvert un accès au sacrement pour les divorcés qui se sont remariés, mais au cas par cas, le pape réussit à rassembler sa famille, écrit Libération. Le pape remporte son pari, estime le Figaro, qui note une ouverture prudente, un esprit de miséricorde, mais également mis également en avant par le républicain lorrain. La doctrine est intangible, mais l'Église se montrera plus ouverte. C'est un premier pas, et c'est pour le pape un succès de principe. Les résistances étaient farouches. Une brèche, confirme Ouest France, mesurée, limitée, floue dans les termes choisis, insuffisante pour beaucoup, mais une brèche quand même.
Que va devenir la Chine dans les prochaines années ? C'est à la une des Échos.
La Chine joue son avenir de superpuissance. Voilà l'enjeu selon le journal du plan quinquennal qui doit être décidé à partir d'aujourd'hui à Pékin par les dirigeants du Parti communiste. Conjoncture risquée selon les Échos. La croissance de la deuxième économie mondiale est retombée à son niveau de 2009. Croissance, réforme, démographie, environnement, ce qu'il faut attendre de ces débats au-dessus desquels, selon les Échos, planera la campagne anti-corruption. Le journal pense que le président Xi Jinping a toutes les cartes en main pour mener les réformes, sauf s'il privilégie la politique.
La politique précisément, mais à la FIFA, la Fédération Internationale de Football, pour les prétendants à la présidence, c'est le jour le plus long.
L'équipe plante ainsi le décor, puisque c'est ce soir la limite pour d'éventuels candidats s'ils veulent se déclarer. On voit la mine bougonne de Michel Platini, qui connaîtra à minuit pétante l'identité de tous ses concurrents, enfin s'il est autorisé à aller plus loin. Il y a pour l'instant 4 adversaires, le prince Ali de Jordanie, Jérôme Champagne, un autre Français proche de Sepp Blatter, le trinitéen David Nakid et Tokyo Sekwale, lui, est sud-africain, Tokyo, parce que quand il était jeune, il adorait le karaté. Il vient de se déclarer, on le voit sérieux dans l'équipe, beaucoup plus rieur dans Le Parisien, qui rappelle son parcours, plusieurs vies, dont une première particulièrement violente dans le township de Soweto, un petit passage en Union soviétique dans les années 70, ancien compagnon de cellule de Nelson Mandela, artificier de l'ANC, ministre, animateur télé, membre du comité de candidature pour le Mondial 2010 organisé en Afrique du Sud, attribution d'ailleurs entachée de soupçons de corruption. Titre de l'article sur ce Tokyo séquelé, tout un roman.
Elles sont aussi à la une ce lundi, les pyramides d'Égypte.
Khéops cache-t-elle encore des secrets, se demande Le Parisien aujourd'hui en France. Le journal détaille les objectifs d'une mission internationale avec des moyens ultra sophistiqués, un scanner, des caméras thermiques, infrarouges, une carte en trois dimensions dressée à l'aide de drones, tout cela pour savoir qui pourrait se cacher dans cet édifice vieux de 4500 ans. Peut-être une autre chambre, une chambre secrète, souvent imaginée dans les livres. Il y aurait des anomalies dans le plan. L'Égypte relance ses projets pharaoniques, nous dit Le Figaro. Les égyptologues prendront ensuite le relais pour interpréter ces données sur les traces de Néfertiti.
Merci Bruno Faure. C'était la revue de presse à retrouver sur RFI.fr.